Bon alors, cette fois pour l'émission d'hier, là, c'était vraiment super.
C'était super, l'invité était formidable et grâce à elle, j'espère que voilà, on aura pu parler d'une autre manière des réfugiés.
Et que les gens auront fait des dons à SOS Méditerranée.
Ah, j'espère qu'ils auront fait des dons, mais qu'ils leur auront pas envoyé leurs analyses d'urine.
Hein, pourquoi tu dis ça?
Bah écoute, Alice Gautreau, l'invité.
Faire des dons à SOS, en fait, c'est un petit peu chacun et hop.
Ben voilà, donnez votre goutte à sosméditerranée.fr. Oui, non, mais là ça va, non, mais t'as compris.
Oui, moi j'ai compris. Enfin, d'ailleurs, parlons de compréhension.
Ah, André Manoukian.
Exactement.
Ah bon,
en deux jours, il dit tout et son contraire.
Ah bon.
Vendredi dernier, on est à Nancy et tu lui demandes si le deuxième album d'un chanteur est moins bon que son premier et il répond.
C'est la grosse angoisse du deuxième album. Et c'est à partir du moment où on croit qu'on sait qu'on va un tout petit peu dans le mur. Quoi.
Ah oui, là, mais là c'est clair.
Dans le mur, voilà. Et donc hier, il présente le deuxième album d'un duo de chanteuses cubaines.
En général, le deuxième album, c'est le meilleur, c'est un chef-d'œuvre.
Ah, c'est clair aussi.
Hein. Ben, c'est clair, mais c'est complètement l'inverse.
Oui, mais c'est ça qui est fort chez André, c'est que et sa première chronique et sa deuxième chronique sont brillantes.
Et complètement contradictoires.
Voilà, il pourrait faire de la politique, en fait.
C'est ça.
Bonjour la France Inter, bonjour les feignasses du service public. Vous vivez dans une start-up nation, et bien vous écoutez une start-up émission. Voici les trois informations adaptées à la pensée complexe. Après Valérie Pécresse, Christian Estrosi lance son mouvement situé entre les Républicains, trop à droite à son goût, lol, et les constructifs, pas assez à droite à son goût, relol. Valérie Pécresse est sous le choc.
Mais vous êtes monstrueux. Notre famille se désagrège et tout ce que ça vous fait.
Le gouvernement va ouvrir la PMA à toutes les femmes en 2018. La Manif pour tous va réouvrir sa boîte à tartines pour redescendre dans la rue. Pourtant, eux aussi pourraient avoir besoin de la PMA.
C'est que il faut faire des bébés avec elle.
Oui,
ouais, j'ai pas envie. Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche.
Un café de Bordeaux propose de ne plus vous facturer les consommations, mais le temps que vous passez dans l'établissement pour éviter notamment ce genre de situation.
Et alors ces demoiselles, là, qu'est-ce que je leur sers? Faudrait peut-être penser à renouveler les consommations.
Un café avec 5 pailles, madame.
Et pour lui, vous mettrez aussi un petit calva. C'est Alex Vizorek.
C'est bien Emma. Bonjour Charlie Vadonaker. Et aujourd'hui, autour de la table, une équipe magnifique. 17h20, l'homme qui risque, après Valérie Pécresse et Christian Estrosi, de lui aussi créer son mouvement à droite. On mira tous au paradis. Oh. C'est Pablo Mira, bonjour.
Ça me plaît. Salut Alex, salut Charline. Guillaume. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de la keynote d'Apple qui a eu lieu hier. Oui. Tout le monde brûlait d'impatience de savoir comment allait s'appeler le successeur de l'iPhone 7. Eh bien, cette année encore, c'était tout bonnement impossible à deviner si on ne savait pas au moins compter jusqu'à 8, évidemment. À tout à l'heure.
17h30, hier, la France lui a tendu son index et du coup, ce n'était pas drôle. Mais c'est peut-être parce que Marianne voulait lui indiquer la sortie. En tout cas, entre deux, le statut Facebook, c'est en couple, mais c'est compliqué, Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi j'ai encore été disruptif quoi.
Ah oui.
Je suis allé dans des endroits où plusieurs personnes travaillent dans merde, comment on appelle ça?
Dans des centres de coworking.
Voilà, c'est ça, pardon, j'ai pas encore les réflexes, c'est pour ça.
Oulala, et 17h40 dans la série, elle me montre la sortie, je vous présente la championne toute catégorie, qui préférait passer une soirée à dire tout Catherine Plancol plutôt que d'aller au dîner avec moi, c'est Clara Dupont-Moneau.
Bonsoir Alex.
Bonsoir. De quoi allez-vous parler aux autres gens autour de la table?
D'une dame révolutionnaire et calme.
Très bien.
Et je me tourne vers celui qui va manager la réunion. Vous faites vos débuts de comédien au Petit Théâtre de Bouvard en 82, vous jouez Fédo, La Puce à l'oreille, Tailleur pour dames ou Le Dindon, et des pièces plus contemporaines comme Le Dîner de cons, Le Placard de Francis Weber ou Musée au Musée Bas de Jean-Michel Ribes avec lequel vous collaborez depuis 30 ans. Au cinéma, vous êtes l'inoubliable prof de sport dans Prof. Vous avez aussi tourné dans Une époque formidable, La crise ou La maison du bonheur, entre autres. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis acteur, madame.
Il est acteur.
Bravo,
c'est l'acteur pour vous
aujourd'hui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Laurent Gamelon.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir. On est très heureux que vous soyez avec nous. Vous jouez sur scène « Tant qu'il y a de l'amour » de Bob Martet. Mise en scène d'Anne Bourgeois, c'est avec Marianne Chazelle, Patrick Chenet ou Valérie Bègue au Théâtre de la Michaudière. Et c'est Alex qui est allé vous voir.
Mais oui, je suis allé vous voir. Alors d'habitude, on a une histoire de mari d'amant ou de femme de maîtresse. Et ici, on a les deux pour le prix d'un. C'est un peu ça, ils sont quatre.
Oui.
Et ils se trompent, enfin ça marche dans tous les sens, c'est croisé, ils sont tous ensemble.
Ils sont tous ensemble, mais c'est pas justement, enfin je crois que c'est une pièce très moderne, moi. Je pense pas que ce soit le problème des amants ou des maîtresses.
Il se trouve. Non, mais il a pas compris la pièce,
oui, attention.
Je sais pas, ouais. Il va peut-être en parler davantage pour voir s'il l'a vraiment vu.
C'était à l'Odéon, non?
C'est ça.
Oui,
c'est ça, c'est ça. Avec Carmen Mahora et Michel Bouquet.
Je me suis, oui.
Et je suis le hallebardier qu'on voit à la fin.
Donc Patrick Chesnais est le mari de Marianne Chazelle. Mmh. Il la trompe, elle le sait, tout ça se passe bien. Et un
oh oui, en bonne entente, enfin, quoi.
C'est pour ça que vous dites que c'est moderne, parce qu'ils sont tranquilles.
C'est-à-dire qu'elle elle est obligée d'accepter qu'il ait une maîtresse, notamment, on suppose qu'il en a eu beaucoup, mais là, il en a une régulière, qui a 30 ans de moins que lui, et elle accepte, pas tellement parce que ça lui plaît, mais elle accepte parce que elle n'a pas d'argent pour partir. Et donc, elle est obligée qu'il accepte de la laisser partir, notamment en vendant la maison et en partageant l'argent. Sinon, elle ne peut pas se barrer.
Mais lui, il aime encore, parce qu'il dit « Moi, j'aime la fidélité le soir. »
Exactement.
C'est la journée qu'il aime moins.
Voilà. Il aime bien niquer l'après-midi et le soir, manger des macarons devant la télé.
Exactement. Et là, il lui pose...
Un rêve d'homme, quoi.
De certains hommes, madame.
Ça ressemble à Manoukian, là.
Et donc, il lui pose la question. Il lui dit « Mais toi, tu me trompes pas ?» Elle lui dit « Mais bien sûr que si. » Et c'est là que lui ne sait pas que c'est vous, mais oh, ouais. Vous êtes le pharmacien veuf qui passait les après-midi, vous, avec Marianne Chazelle.
Alors, pas toutes les après-midi, malheureusement, mais effectivement, je suis l'amant de Marie, je suis pharmacien, je suis désargenté, ce qui explique aussi que elle ne peut pas s'en aller grâce à l'argent de son amant, et elle va le convaincre, assez facilement d'ailleurs, parce qu'il est très amoureux et aussi très lâche. Elle va le convaincre qu'il faut tuer le mari.
Voilà, c'est ça que je voulais peut-être pas dire.
Ah, mais... j'ai dit trop vite.
Ah, mais non, c'est-à-dire que c'est évidemment le début du pitch. Et lui,
faites-moi
il
un signe spécial. Quand je commence à dire quelque chose que je ne dois pas dire.
Vous dites ce que vous voulez.
Ça risque d'arriver assez souvent.
Dans ce genre de pièce, ce qui est bien, c'est les rebondissements. Donc, si vous donnez jusque où vous voulez.
Ah oui, mais ça, finalement, c'est pas. On peut en parler, ça. Les rebondissements se situent plutôt après.
Et donc, elle est.
Si vous étiez encore là.
Bon, je suis resté jusqu'au bout. Et la scène de fin vaut de rester jusqu'au bout. Parce que là, ça va dans tous les sens. On a l'impression que l'auteur a tissé des fils pour que tout explose sur la scène de fin.
C'est ça. Bon, l'auteur, moi, je le considère comme un auteur assez génial.
Bob Marté. Hein.
Oui, je le connaissais pas. C'était un acteur, d'ailleurs. Et j'ai lu depuis, je me suis jeté sur plusieurs pièces qu'il a écrites. Et je pense qu'il mériterait de devenir un des auteurs phares du milieu de ce siècle.
Parce qu'on disait que vous avez joué Feydeau, vous avez joué Francis Weber. Mmh. Ce sont des gens qui, au fur et à mesure, ont fait évoluer le théâtre humoristique de qualité. Comment... Non, mais c'est vrai. Mais comment
en comparaison avec Laurent Ruquier.
je vous laisse savoir propos. Ouais, hein.
Faut pas quitter France Inter. Hein. Ça coûte très cher.
Là, c'est foutu. Là. On est obligé de rester.
Mais comment on repère les successeurs de ces gens-là quand, justement, on a joué ce qui, je pense, pour moi, Feydeau reste le meilleur encore aujourd'hui.
Alors on les repère, moi, c'est pas moi qui les repère, on me l'a proposé.
Mais quand vous lisez la pièce, vous pouvez dire oui ou non.
Ah, absolument, mais j'ai dit oui immédiatement, parce qu'il y a chez Bob Marté, dans cette pièce en particulier, mais il y en a d'autres, il y a une véritable folie. Il y a une mise en abîme des personnages, il y a un ton et une langue qui est une langue que je trouve très moderne, qui ça raye un peu le verre.
Pourquoi vous dites qu'elle est moderne? Parce que c'est ça qui est intéressant, par rapport à Feydeau.
Parce que elle dépeint des situations, elles, qui ne sont pas très modernes. La situation d'un mari, de sa maîtresse et de sa femme, c'est pas franchement moderne. Mais c'est le ton, c'est l'utilisation des mots, c'est la compression du temps, c'est, je vous dis, ça règle le verre, c'est assez irrévérencieux. Et moi, personnellement, ça me plaît beaucoup.
Bob Marté, l'auteur de la pièce, dit « Maintenant, les femmes se laissent moins faire, et c'est tant mieux, et ça permet d'écrire des choses encore plus amusantes. »
Oui, certainement, oui.
Ce serait résumé.
Bon, il doit être un peu faux cul, dans la mesure où je suis pas sûr que ça l'arrange personnellement que les femmes aient plus de pouvoir aujourd'hui, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, ça lui donne un peu de
bien,
matière.
Tant qu'il y a de l'amour, c'est avec Laurent Gamelon, Marianne Chazelle, Patrick Chesnais, Valérie Beg. C'est au Théâtre de la Michaudière. Et vous jouez ce soir, notamment.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr. Laurent Gamelon est avec nous jusqu'à 18h par Jupiter.
La vie, c'est le chaos. La vie, c'est le stress. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. Mais si par j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît. Oh, miracle, je me lève, je chante, je danse. I'm dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing. La vie, c'est le spleen. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur, j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît. Oh, miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing.
Arthur H, Dancing with Madonna sur France Inter par Jupiter. Et ce rire, c'est celui...
C'est celui de Clara Dupont.
Non, hein. C'est Pablo Mira.
Oui, Pablo Mira qui a fait la vanne.
La délation.
Et Guillaume Meurice, oui. Là aussi.
Je moi, je suis là, j'écoute.
Ouais, ouais. Et Laurent Gamelon.
Il est là.
Il est là, Laurent Chance. Gamelon est notre invité avant de partir au théâtre de la Michaudière ce soir où il joue Tant qu'il y a de l'amour de Bob Martet, mise en scène d'Anne Bourgeois avec Marianne Chazelle, Patrick Chesnais et Valérie Beigue. Et puis, vous êtes un passionné de politique et d'actualité, ça tombe très bien. Voici le journal qui arrivera en gare avec 5 minutes de retard, comme d'habitude.
Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes.
Le journal de presque 17h17.
Alors, conclusion ?
La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron s'est engagé à revenir à Saint-Martin. Pour la date, il n'a pas précisé.
Oui, moi je sais, ce sera le 23 septembre, jour de la manifestation de la France insoumise.
Et c'est ce soir que le CIO va annoncer que les Jeux Olympiques de 2024 seront attribués à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles.
Pour la première fois qu'en sport, les Français sont devant les Américains.
Il y aura des brèves.
Mais je m'entraîne pour la médaille d'or des brèves en 2024. Emmanuel Macron est donc depuis hier à Saint-Martin.
Oui, il a passé la nuit sur un lit de camp et s'est lavé au seau d'eau pour se mettre dans les conditions de vie difficiles des sinistrés.
Oui, si les conditions de vie difficiles lui plaisent, il devrait passer une journée dans la peau de Manuel Valls.
Il a également parlé avec des habitants.
Oui, une dame notamment était très remontée, mais l'a admis.
Je suis une chieuse aussi.
Pas pour que vous... Est-ce que je peux plus me permettre de vous dire que ça se voit un peu?
Donc, il repère les chieuses et pourtant, il avait engagé Laurent Seyhem.
Et donc, hier, il n'a pas pu entendre la rue gronder. Hier avait lieu la manif contre la réforme du Code du Travail.
Oui, et comme toujours dans les défilés, divers slogans. Notre préféré, ouvrez les guillemets, enfin écrit sur la pancarte, trop fainéant pour trouver un slogan. Fermez les guillemets.
On valide. Et durant la manifestation, on a pu voir les images d'un homme nu chantant avec sa guitare devant les policiers.
Oui, Francis Lalanne ne va pas mieux donc.
Passons au matinal radio ce matin sur France Inter, nous recevions Thierry Solaire.
Oui, et un auditeur lui a demandé pourquoi il n'était pas chaud sur la loi de la moralisation.
Thierry Solaire vous répond.
Écoutez, d'abord, j'ai voté la loi sur la moralisation. J'ai dit j'ai volé.
Oui, tu as dit j'ai volé.
Et sur France Info recevait l'homme du moment. Hein.
Laurent Wauquiez et Jean-Michel Apathy lui rappellent qu'il y a d'autres candidats à la présidence des Républicains.
De l'avis général, c'est vous qui allez gagner.
Bah, vous êtes gentil pour moi ce matin.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Eh ouais, il était tout à fait déstabilisé. Il était tout surpris, donc. Mais après, on lui a quand même rappelé que bon, il a critiqué Macron et on lui a dit oui, mais ce que Macron met en œuvre, eh bien, c'est son programme de campagne.
C'est pas parce que des conneries étaient annoncées que le fait qu'elles se réalisent soit une bonne nouvelle.
Et Laurent Wauquiez sait de quoi il parle, puisque rappelons qu'il y a de grandes chances que sa nomination annoncée depuis longtemps arrive comme patron des Républicains.
Terminons le volet politique avec cette indiscrétion relevée par le Figaro. Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu visite à Jacques et Bernadette Chirac en juillet dernier.
Eh oui, ça lui a fait tout bizarre à notre nouveau président de voir un vrai fainéant.
Société à présent, Cédric Héroux de la vallée de la Roya a été placé pour la 7e fois en garde à vue.
Mais oui, à coup sûr, il n'a pas accepté de baisser de 5 euros le prix du loyer des migrants qu'il accueille.
Média, Jean Messia du Front National, écarté d'Europe 1, porte plainte pour discrimination politique.
Oui, c'est la première fois que le Front National s'intéresse à des discriminations.
Une page football ?
Oui, le jeune attaquant du Real Madrid, Marco Asensio, est malheureusement forfait pour le match de ce soir contre la Poêle Nicosie.
Oui, le joueur souffrirait en effet d'une infection de la peau causée par son épilation des jambes.
Et oui, c'est que les joueurs s'échangeaient les maillots après les matchs. On découvre qui se le font, le maillot avant les matchs.
Des brèves ?
Oui, en Italie, un robot chef d'orchestre a dirigé son premier concert.
C'est intéressant, oui.
Oui, Andrea Bocelli aurait dit « Moi, je m'en fous
». Et la dernière ?
Et la dernière. Le perroquet avait assisté au meurtre et il a tout répété.
Mais non !
Si, c'était aux États-Unis, le perroquet a pu confondre le mari car il a répété les derniers mots de la femme. Ne tire pas, ne tire pas. S'il y avait eu un perroquet dans la suite du Sofitel à New York, il aurait sans doute dit la même chose.
Vous êtes sur France Inter, par Jupiter et parlons politique avec Laurent Gamelon. Avec le grand chamboule-tout de cet échiquier politique, il y a des espaces qui se libèrent. Par exemple, entre les Républicains et les Constructifs, il y a un interstice dans lequel, hop hop hop, Christian Estrosi s'est glissé pour créer un mouvement. Alors attention, Christian Estrosi prévient, il veut se placer au-dessus de la mêlée. Voici donc son manifeste.
Oui, notre parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de personne. Parti de oui, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. C'est le parti comme un parti. Notre parti, un parti placé au-dessus des partis.
C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti.
On ne s'en lasse pas.
J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur YouTube et regarder cet extrait qui est en fait dans son intégralité.
Oui.
Il s'agit de Pierre Dac et de Francis Blanche et de les regarder chanter cet hymne du Parti d'en rire, parce que c'est une pure merveille.
Qu'est-ce qui fait le sel aussi à l'image? C'est le fait qu'ils restent de marbre.
Stoïque,
ouais. Dans leur personnage.
Enfin, Francis Blanche.
Ouais, il y a un petit sourire.
Ouais, commence à faire le con à peu près à la moitié. Mais Pierre Dac, lui, ne sort pas des rails.
Laurent Gamelon, vous qui suivez de près de la politique, vous en êtes friand. Est-ce que vous seriez tenté de passer au parti d'en rire? Par déception, peut-être, du climat ambiant?
Certainement. J'ai même pensé à un moment créer moi-même un mouvement politique. Bon, c'était un petit peu pour rigoler, je pense que je l'aurais pas fait. Quoiqu'en vieillissant, je me dis qu'il faudrait le faire. Oui, je crois qu'il y aurait matière, il y aurait besoin surtout à ce que quelqu'un fasse. Alors, pas comme Coluche, parce que Coluche, je pense que c'était... finalement, c'était presque un peu...
Sérieux.
Trop sérieux, oui. et il a fini peut-être par y croire lui-même un peu, ce qui est regrettable, mais que quelqu'un, oui, que quelqu'un propose sérieusement quelque chose de fou, oui.
Il y a des Coluches qui ont fonctionné, Beppe Grillo en Italie.
Oui, mais lui, c'est pas drôle.
Il s'est pris au sérieux.
Il s'est pris au sérieux aussi.
Mais dès le début,
mais
lui,
il a été élu quand même.
Ouais.
Laurent Gamelon, si vous êtes partant, on vous suit, nous.
Ah ouais.
Bah, écoutez, je vais essayer de mettre un programme sur pied, je vous le soumettrai.
Mais j'espère juste qu'il ne mettra pas un point d'exclamation, Estrosi, parce que c'est la mode des points d'exclamation en ce moment.
Ah oui, comme Valérie Pécresse qui a lancé Libre. Justement, il y a Valérie Pécresse, Christian Estrosi, il y en a d'autres qui essayent de se trouver des espaces parce qu'au sein de leur famille ou de leur mouvement, ils sont pas en accord. C'est-à-dire qu'ils veulent chercher, par exemple, Christian Estrosi et Pécresse, entre les Républicains et les Constructifs. À gauche, le Parti Socialiste se dit, tiens, finalement, nous, on a un boulevard, puisque Macron est très libéral et qu'il y a le Front de Gauche. Ce chamboule-tout de l'échiquier, ça vous amuse de chercher à comprendre et vous essayez de le comprendre pour rester en phase?
Je cherche à le comprendre, ça ne m'amuse pas tellement. Si je repars, je ne pars pas trop loin, à Sarkozy, on s'attendait à une politique très libérale et très dure. J'ai pas été déçu. Ensuite, Hollande, que j'ai personnellement, pour qui j'ai voté, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai été déçu. Et avec Macron, j'ai été déçu au bout de 15-20 minutes.
Ouais, c'est le discours du Louvre.
15-20 minutes à partir de quand? À partir du moment où
Du moment où il a été élu. C'est-à-dire déjà au Louvre, j'ai dit aïe, aïe, aïe.
Quand vous l'avez vu marcher, ça faisait 15-20 minutes,
avec des semelles claires, ce qu'il ne faut absolument pas faire.
C'est vrai. Il avait des semelles
claires. C'est Christina Cordula, au fait.
Et Laurent Gamelon, si vous croyez de moins en moins à la politique, même si vous continuez à vous y intéresser de près, quand on y croit moins et qu'on est déçu, est-ce qu'on cherche d'autres formes d'engagement?
Alors, il y en a d'autres. C'est les formes associatives, tout ça. Bon, je répugne toujours à m'engager, bien que ce soit pas très bien, je le concède, mais parce que je veux rester libre. Mmh. Et donc, j'ai toujours peur d'une forme d'embrigadement ou de dogme, quelle que soit la nature le domaine dans lequel on s'engage. Mais je suis pas, je veux justement pas faire partie de cette grosse masse des déçus qui vomissent sur les politiques constamment. Je les critique, mais je pense que la politique est indispensable.
Et votre petit camarade Franck de la Personne, il vous a pas appelé pour rejoindre?
Franck de la Personne, j'ai joué avec, c'est pathétique. Il est pathétique, ce garçon. Et je vais vous raconter une anecdote, ce que j'ai pour habitude de dire ce que je pense. J'ai joué avec lui il y a des années, une pièce de Roland Topor et Jean-Michel Ribes qui s'appelle Bataille, qui avait été créée avant nous. Et alors, ce mec, il avait une tentation sur scène. En plus, il était un peu inconscient du danger, parce que physiquement, il n'était pas aussi gros. C'est moi je le suis devenu, et lui, il est devenu encore plus gros. Et alors, s'il faisait un truc sur scène, c'est qu'il reculait pour me tourner. C'est pour m'obliger à me tourner et me retrouver dos au public. Donc assez rapidement, je l'ai collé au mur dans l'escalier du théâtre Tristan Bernard où nous jouions. Et bon, comme disait Audiard, quand les hommes de 100 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Donc à partir de ce jour-là, il s'est tenu correctement. Non, mais c'est pitoyable. Puis j'ai appris qu'il avait demandé un CDI. Ouais. Enfin, il est à la rue, ce mec-là. Il sait plus quoi faire.
C'est pas le meilleur rôle de sa carrière.
Il me dégoûte, ce mec.
C'est sûr. Laurent Gamelon est avec nous et il est 17h30 sur France Inter. Ah. L'heure de parler nouvelles technologies avec Pablo Mira, éditorialiste et créateur de Ragnoutéo, un service de Ragnout connecté. Pablo, vous nous parlez aujourd'hui de la keynote d'Apple. C'est, vous savez, la grand-messe annuelle d'Apple qui s'est déroulée hier et qui vous a séduite, je pense.
C'est exactement ça, tout à fait, Charline. À la surprise générale, Apple a donc présenté deux nouveaux modèles de smartphone, l'iPhone 8 qui sera comme le 7 mais en mieux, et puis l'iPhone 10 qui sera comme le 11 mais en moins bien. C'est le concept. Alors avant de me faire insulter par les twittos, parce que je les vois venir sur ma prononciation de ce nouvel iPhone, sachez que ça peut se prononcer iPhone 10, ça peut se prononcer iPhone X, mais ça peut aussi se prononcer combien. Alors si vous me le permettez, je vais m'attarder deux petites secondes sur ce fameux iPhone 10, puisqu'il possède quand même des qualités sensationnelles quand on regarde de plus près. Déjà, l'autonomie de la batterie est nettement améliorée, puisqu'on pourra désormais perdre jusqu'à 2 heures de vie supplémentaire. Et puis, la grande nouveauté, c'est bien sûr la fonction reconnaissance faciale, qui est une véritable avancée en la matière. C'est grâce, par exemple, à cette technologie que les gens pourront déverrouiller leur appareil et que Guillaume pourra déverrouiller l'iPhone de Laurent Wauquiez. Ça fonctionne comme ça. Alors, vous me direz, il y a des traits communs quand même. Alors, vous me direz, ok, mais si l'iPhone 10 est si génial, dans ce cas, pourquoi acheter l'iPhone 8? Eh bien, moi, je vais vous répondre. J'ai posé la même question ce matin à un dirigeant d'Apple, et voici ce qu'il m'a répondu. Je vous traduis dans la foulée.
Yeah, well, fuck you. Fuck France and fuck the world, motherfucker.
L'iPhone 8 et l'iPhone 10 sont quand même très différents.
Motherfucker, and shut the fuck up. You're fucking ginger, that's your problem.
L'important, c'est que tout le monde soit content avec nos produits.
Fucking asshole, you piece of shit. Just suck on my juicy cock, okay?
Vive la France.
Mais non, je crois que français,
non, je crois que tout le monde a bien compris cette dernière phrase, évidemment. Alors évidemment, il y a toujours des mécontents, des cyniques, hein, qui diront que payer 1159 € pour un smartphone, c'est beaucoup trop. Et là, Charline, je suis désolé, je suis pas d'accord.
Mais attendez, Pablo, très franchement, pourquoi acheter un iPhone à plus de 1000 € alors que votre iPhone 7 marche parfaitement bien, Pablo?
Bah vous savez quoi, Charline? Je crois que vous avez parfaitement raison. Excusez-moi.
Ah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais poursuivez, Pablo, s'il vous plaît. C'est bon, alors, ça va.
Bien sûr, les prix. Oui, mais je peux m'acheter un nouvel iPhone. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, les prix sont chers, mais c'est parce que la fabrication coûte cher. Déjà, mais oui, ça coûte cher parce qu'il faut déjà payer des milliers d'ouvriers chinois. Et je peux vous dire qu'avec 290 € par mois, quand même, pour 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, ces ouvriers sont de loin les esclaves les mieux payés du monde. Non, moi, vous me connaissez, je préfère voir le verre plutôt à moitié plein, le côté positif des choses. Chaque année, Apple parvient tout de même à réaliser deux de mes rêves, repousser les limites de la technologie et puis repousser les limites de l'optimisation fiscale. Parce que oui, Apple pratique l'optimisation fiscale, on le sait tous, ils font ça en Europe avec l'Irlande. Attendez, excusez-moi, ça va, déjà, un, c'est légal, et puis le but des sociétés, c'est quoi, Guillaume? Ça reste de faire de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Si on leur laisse la possibilité de se faire plaisir, bon, bah, ils vont pas se priver. Réfléchissez. Si vous amenez Gérard Larcher à un buffet asiatique à volonté, bon, bah, il y a peu de chances qu'il s'arrête à la deuxième brochette bœuf fromage. C'est la logique. Pour conclure, on pourra dire ce qu'on veut, mais Apple a encore frappé fort une fois de plus. Comme beaucoup, moi, j'ai été totalement séduit par leur nouveau modèle, mais aussi par leur nouveau slogan, qui s'intitule, pardon, dites bonjour au futur. Eh bien, moi, je suis de ceux qui disent bonjour le futur.
Bonjour Pablo.
Qui c'est?
Bah, c'est moi, le futur.
Oui.
C'est juste pour te dire que tu viens d'acheter un iPhone 10, que t'es à découvert et que tu dois rappeler d'urgence ton conseiller bancaire. Voilà. Bisous.
Ah, merde. Bon, bah, finalement, Charline, Samsung, Motorola, tout ça, c'est pas si mal non plus. Allez, salut.
Merci, Pablo, Mira. Laurent Gamelon est avec nous jusqu'à 18h, avant de partir au théâtre de la Michaudière, où il joue Tant qu'il y a de l'amour. Amadou et Mariam aussi.
Bofu safu ye manyinde.
Bofou Safou, Amadou et Mariam qu'on recevra le 4 octobre dans Par Jupiter. Et pour l'instant, c'est Laurent Gamelon, notre invité, pour notre plus grand plaisir. Et je peux dire pareil de Guillaume Meurice.
Oh là là, c'est beau comme enchaînement. Bon, c'est beau, mais les amis, on est mal. On l'a appris hier, Radio France a 20 millions d'économies à faire. C'est le ventriloque Goldman Sachs et sa marionnette Édouard Philippe qui l'a annoncé. C'est pour ça qu'il est un peu raide, hein, Édouard Philippe, hein, faut bien glisser la main. Alors, on a l'image. Alors, 20 millions, c'est compliqué, hein, on sait pas quoi faire. Bon, alors on pense immédiatement au budget Point Soleil de Vizorek, mais là, ça fait que 10 millions d'économiser. On pense à la coupe de cheveux de Laurence Bloch, hein, notre directrice qui coûte un fric fou. Je vous rappelle qu'elle fait des tests en soufflerie tous les mois. Mais il faut se rendre à l'évidence, le compte n'y est pas. Et je vais vous dire pourquoi. On est encore sur d'anciens schémas. Ah oui. On n'est pas adapté à la nouvelle société. Et moi, je suis allé dans un salon d'affaires consacré aux entreprises ce matin pour étudier toutes les nouveautés. Je vais vous dire, on a du retard. Par exemple, au bureau, on a un jeu de fléchettes, ok, mais on n'a pas encore de boulodrome. Heureusement que je suis là, parce que j'ai rencontré ce matin un fabricant de...
Voilà, boulodrome intérieur, qui permet un petit peu de découvrir les plaisirs de la pétanque et de passer un petit moment convivial.
Donc là, on joue sur la moquette.
Oui, alors c'est du gazon synthétique qui imite un petit peu l'aspect terre qui est normalement utilisé.
Ça, c'est très Startup Nation.
Vous avez tout compris.
Mais évidemment, j'ai tout compris, mais on ne m'écoute pas ici. Il faut mettre des boulodromes dans les couloirs. J'avais même un projet de deltaplane d'intérieur, mais ça n'a pas été retenu non plus. On ne m'écoute pas, alors c'est pas grave, j'ai continué. Sur les moyens de transport, on est complètement ringard. Ce matin, j'ai rencontré un fabricant de quoi ?
De draisienne électrique.
Ah, de draisienne électrique carrément ?
Draisienne électrique, ce sont des vélos en fait sans pédales, qui sont propulsés par un moteur électrique.
Ouais, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque d'avoir l'air con là-dessus ?
Aucun.
C'est vrai ?
Aucun.
Ouais, parce que j'avais un doute quand même à un moment donné. Et ben là, c'est pareil à Radio France. Ça ne prend pas, je ne vous ai pas vu. Andrésienne électrique, par exemple, Clara. J'avais moi-même proposé un projet de chaise à porteur solaire pour Mathieu Gallet. Ça ne prend pas, il ne veut pas. Il n'est pas disruptif. Et on est ringard, je veux dire, même sur toute la mobilité. Et même, je veux dire, la mobilité, c'est fini.
On parle aujourd'hui d'intermobilité.
Intermobilité, c'est compliqué là.
Ouais, je l'appelle l'intermobilité, moi, parce que je dis que, on va dire l'interconnexion.
C'est de la mobilité à l'intérieur de la mobilité.
Voilà, exactement. Je me déplace en bus, je me déplace en train, je peux toujours emmener ma draisienne avec moi. Je prends l'avion,
la voiture. On prend un moyen de transport. Avec son moyen de transport.
Voilà, avec son moyen de transport, je parle de mobilité embarquée.
Vous êtes venu, vous, en mobilité embarquée ce matin ? Non. Voilà, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Après, bon, je vais vous dire franchement, je ne vous juge pas. Moi, encore ce matin, j'étais comme vous, je posais même des questions à la con, des questions d'un autre âge. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un moyen de transport plus facile qui s'appelle les pieds ?
Ah, les pieds, c'est bien, mais on s'en sert des pieds.
Ah, voilà.
Bah, entre les moments où on descend, le moment où on prend un escalier, on continue le sport, parce que malheureusement, il y a des marches, il y a des moments où on est obligé d'utiliser nos pieds.
Oui, alors voilà, ne vendez pas tout de suite vos pieds, hein, pour ceux qui se disaient que ça ne sert plus à rien, il reste les escaliers. Mais dès qu'on règle le problème, c'est fini. Hein. De toute façon, le projet final, je vais vous dire, c'est qu'il ne vous reste plus qu'un œil, une bouche, un cul, un portefeuille. Tout le reste du corps sera obsolète. Et encore, quand je dis un œil, ils ont pensé à tout avec la réalité virtuelle.
En fait, on propose des visites virtuelles.
Donc, des visites virtuelles.
Absolument. Pour notamment les hôtels. Et l'intérêt, c'est qu'on est immergé dans l'environnement et qu'on a une interaction avec l'environnement.
Et est-ce que ça peut permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer des grands hôtels de rêver un peu ?
Ah oui, oui. Ouais, mais bon, c'est d'un point de vue passif, sans avoir accès à l'hôtel réellement.
Ah bah, ils manqueraient plus qu'ils sautent sur le lit avec leur godasse de pauvre, putain. Oh, non. Ils prennent un crédit CTLM pour acheter les lunettes et ils restent chez eux. Mais évidemment, on peut toujours aller plus loin et même, comme dirait la philosophe Tina Arena, aller plus haut.
Alors, on propose une pyramide holographique. C'est le futur, hein ?
Ah bah, un peu que c'est le futur. Putain, la pyramide holographique, ma gueule. Sky is the limit, my friends. Que n'avez-vous pas encore en votre possession cette invention ultime sortie du génie de l'humanité ? Explication.
Est-ce que c'est que ça, une pyramide holographique ?
Un petit objet pour les geeks, pour les non-geeks, pour peut-être les grands-parents aussi, pour raconter des histoires à leur enfant, en fait, et voir un petit personnage apparaître au milieu de la pyramide. Ça fait un effet hologramme, en fait. C'est bluffant, c'est... Il faut l'acheter.
Ah ben on va l'acheter, hein. Il nous faut absolument ça, notamment pour les brefs d'Alex. Quand il les raconte, à côté il y aura une petite pyramide holographique avec un mec qui reste comme ça coincé dans un pot d'échappement de Twingo. Ça on le verra en hologramme. Pourquoi ?
Pour le fun en fait, pour s'amuser, ouais. Pour faire plaisir aux gens, pour offrir en fait.
Parce que l'intérêt des histoires c'est qu'on les imagine dans notre tête.
Ouais mais si on peut ramener une petite touche du futur dans nos histoires, c'est encore mieux.
Le problème, c'est que dans notre tête, c'est gratuit, quoi.
C'est pas faux.
Oui, c'est ça le problème. Un jour, ils vont quand même réussir à privatiser nos rêves, hein, à foutre des placements de produits dedans, tout privatiser. En attendant, profitons un peu du service public avant d'en être privé.
Merci, oh, joli.
Oh là là.
Merci, Guillaume Meurice.
Il l'a travaillé, hein, celle-là.
Je voulais juste vous dire que la draisienne, c'est-à-dire le deux roues sans pédale, ouais, avec un moteur, ça existait quand j'étais gamin. ça s'appelait une mobylette.
Mais ils ont réinventé. Là, c'est électrique. C'est attention.
J'ai bien compris.
C'est pas pour défendre la trésorerie.
Oh, dites donc. Et ça fait rêver de vivre dans une start-up nation avec tous ces objets.
Je suis là pour vous aider un petit peu. Aussi.
Cette vie par procuration. Oh là là, ça fait rêver.
Alors, c'est Jean-Jacques Goldman qui l'a chanté.
C'est vrai. Clara Dupont-Mono est avec nous. On va l'entendre tout à l'heure ou quand vous voulez. Hein. Pablo Mira a déjà fait son petit devoir. Vous pouvez le revoir sur franceinter.fr. Casser un iPhone avec un marteau.
M'offrir la possibilité d'en acheter un nouveau.
C'est vrai.
Permettez-moi de raconter un truc, c'est tout à fait réel. Cet été, j'étais en Corse, parce qu'il se trouve que c'est là que j'habite, et ma partenaire Marie-Anne Chazelle, qui y était aussi, nous étions ensemble dans un petit restaurant de plage à midi, et on a vu le patron du restaurant prendre une masse et détruire un téléphone portable. On s'est dit, tiens, il fait un peu son show, c'est pour amuser les clients, pas du tout.
Il avait vu la keynote.
Non, c'était le téléphone d'une des serveuses qui s'est permis d'utiliser son téléphone pendant le service.
Oula.
Et il l'a défoncé.
Il a bien fait.
Alors après, il a senti qu'il y a certaines personnes que ça gênait. Ouais. Donc il lui a promis de lui en racheter un. Mais il a défoncé le téléphone.
C'était un sanguin.
Un peu comme ce drôle de mec qui est à ma droite.
Il aura des droits d'auteur sur sur cet instant-là.
Marie-Anne Chazelle, avec laquelle vous avez répété cet été un petit peu. Alors...
Et que j'embrasse très fort parce qu'elle s'est blessée au pied hier soir. Je l'embrasse très fort. Et elle a décidé de jouer quand même ce soir. Donc je la salue et je salue son courage.
Ouais, on l'encourage d'ailleurs pour ce soir dans Tant qu'il y a de l'amour de Bob Marté, c'est au théâtre de la Michaudière. Prenez-en soin de Marie-Anne Chazelle, Laurent Gamelon.
Oh, c'est avec plaisir.
Voici ce deuxième sujet. Le gouvernement propose de légaliser la PMA pour toutes les femmes en 2018. PMA, procréation médicalement assistée. Allons voir comment ça se passe dans les pays où la mesure est déjà en vigueur. Il n'y a pas que la mesure qui est en vigueur, je peux vous dire.
De 1988 à 1990, vous avez participé à un protocole pour la recherche dans le centre de fertilité de la clinique Vallée. Vous avez fait 693 dons de sperme sur une période de 14 mois et pour la somme de 47 255 francs. Récemment, une enquête administrative a révélé que la clinique Vallée ayant eu à l'époque une pénurie de donneurs, du Fonzi a été fourni et à beaucoup de patientes, de sorte que vous êtes le père de plusieurs enfants entre 17 et 22 ans. Vous avez un sperme d'une très grande qualité, Monsieur Costa.
Arnaud de sa mère dans Fonzi, un film d'Isabelle Deval avec José Garcia. Laurent Gamelon, vous avez été agréablement surpris d'apprendre que le gouvernement allait proposer l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018.
Ni surpris, ni pas surpris. J'aimerais être sûr que ce soit une bonne mesure. À partir du moment où des femmes veulent accéder à la maternité, je trouve que c'est une très bonne chose de leur permettre. Quand on dit à toutes les femmes, c'est à celles qu'on en a besoin, j'imagine. Mmh.
Alors c'est au-delà des couples hétéros cette fois qu'il y a pour lesquelles c'était autorisé. Maintenant, c'est les femmes célibataires et les femmes homosexuelles. Donc, c'est dans une visée d'égalité de la maternité.
Oui, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Si la banque de sperme manque de donneurs, vous seriez du genre à vous dévouer autour de la table?
Écoutez, Alex, il le fait alors qu'ils ne sont pas en déficit. Hein, il le fait par...
Laurent Gamelon.
Personnellement,
c'est une question qui va se poser.
Je vais vous répondre. Je suis le père de 5 enfants, donc je pense que j'ai déjà beaucoup donné.
Donc, il doit être de bonne qualité.
Bon, donc, parfois, on garde le meilleur pour la fin.
Alors, ça risque de nous réénerver un petit peu la manif pour tous. C'est un peu bizarre, non, que ceux qui veulent repeupler la France avec des enfants de souche s'opposent à une mesure qui va augmenter la natalité.
Effectivement. Une petite, légère contradiction.
Il y a des pays où c'est payé. Je crois que le film Fonzi, c'est justement ça, non? Je crois que c'est un film québécois et au Canada, en tout cas. Il fait ça pour un complément de salaire. Ouais. Hein. Alors, en France, je ne sais pas ce qu'il en est.
Alors, pas que ce soit payé. C'est-à-dire que les femmes françaises pouvaient aller en Belgique ou ailleurs le faire, mais évidemment, il faut y aller plusieurs fois, ça coûte beaucoup d'argent, ne fût-ce que le Thalys. On est bien placé avec Alex pour savoir que ça vous coûte un bras. Donc là, il y a vraiment une égalité, une équité.
Et ça fait combien de temps que c'est installé en Belgique?
Alors, bonne question.
Plus d'une dizaine d'années.
Ouais. Il fait genre, il sait pas. Il sait
non, non, mais alors on sait que le mariage homosexuel, c'est plus de 10 ans.
Et l'euthanasie, c'est 15 ans. C'est rentré dans la norme.
Je vais m'en renseigner parce que ça sert à rien de dire des conneries.
Mais si vous voulez avoir un aperçu du futur, venez en Belgique. Hein, c'est ce que je vous dise, moi.
Il y a évidemment un chef de clinique aux États-Unis qui a 120 plainte contre lui parce qu'il y a eu 120 recherches en paternité. Et en France, il y a un monsieur qui a apparu à visage découvert, qui s'appelle Gilles Paris et qui se vante d'être le père de 148 enfants. C'est ce qu'on appelle les serial reproducteurs, du coup.
Mais pardonnez-moi, si c'est anonyme, comment peut-on savoir?
C'est pas toujours anonyme.
Le nombre d'enfants
qu'on a... Le père, le monsieur peut décider que ça ne l'est pas.
Ah bon?
Oui.
Oui, comme ils s'en vantent là, apparemment.
Alors c'est... ça, par contre, je trouve que c'est assez moyen.
Il a fait la dernière page de Paris Match en disant « Je suis le père de 148 enfants ».
Ah oui, c'est peut-être pour faire la dernière page de Paris Match.
Aussi, il faudra lui demander.
2006 en Belgique.
2006, ah, très bien. Clara Dupont-Mono, gardez votre micro.
Oui, parce qu'à l'actualité, c'est aussi les élections fédérales en Allemagne qui auront lieu le 24 septembre. Ah. Ça vous met une ambiance tout de suite, hein,
on est sur RFI
funky
ou pas
et sympa. Mais les sondages diagnostiquent déjà quand même une victoire du CDU, le parti de Angela Merkel, qui ce serait son quatrième mandat, c'est quand même pas rien. Et c'est là où quand même, Entschuldigung, comme disent les Allemands, mais Angela Merkel, c'est quand même un magnifique personnage de roman. Parce que si on regarde bien, elle a un peu la ruse de la marquise de Merteuil, elle a la pudeur mélancolique d'Emma Bovary, on peut le voir comme ça, elle a le côté un peu offensif de la mère courage de Bertolt Brecht, un roman. Et je suis sûre... Je suis sûre que sur sa table de chevet se trouve un livre français qui s'appelle Gabriel, signé de Anne et Claire Berest et qui vient de paraître. Et c'est le portrait, voire même le périple de Gabriel Picabia qui est décédé en 1985, alors âgé de 104 ans. Cette femme, elle a ensorcelé le peintre Ferdinand Picabia, qui finalement l'a épousée. Elle a foudroyé d'amour Marcel Duchamp. Elle a mis à terre Guillaume Apollinaire. Elle a mis à terre également tous les artistes de l'avant-guerre. Elle fut une révolutionnaire en silence.
Un peu de
non, on est largement au-dessus. Elle a été en silence et dans le calme. Alors évidemment, là, je vous vois, Laurent Gamelon, il y a une petite question qui germe dans vos beaux yeux farouches que je peux deviner, qui est comment est-ce possible de tout renverser dans le calme ?
Oui, j'allais vous dire, comment est-ce possible de tout renverser dans le calme ?
Mais absolument, Laurent. Eh bien, la réponse est simple, c'est que Gabrielle avait un cerveau érotique. Elle n'était pas très jolie, elle avait, notamment les auteurs la décrivent, elle avait un front trop grand, elle avait des yeux qui ne l'étaient pas assez, mais elle a eu un intellect qui a embrasé tous les gars qu'elle a croisés. Gabrielle comprend tout avant tout le monde, elle le formule très bien, et du coup, quand il s'agit de déglinguer les règles de la musique, de la poésie, de la littérature, de la peinture, elle devient un capitaine de navire, on pourrait même dire un capitaine de brise-glace. Par exemple, la première nuit qu'elle passe avec Francis Picabia, son futur mari, il ne se touche pas, il n'est pas question de corps, la question n'est pas là. En revanche, il passe toute la nuit à parler, le jour se lève, Picabia est électrisé. Je cite, en ce mois de septembre 1908, il succombe devant un esprit. Et les auteurs mentionnent Picabia qui dira, une intelligence faite d'instinct. Et ce sera pareil pour tous les gens qu'elle va croiser, où qu'elle aille. Gabrielle appartient au club très fermé des femmes qui bousculent sans hystérie, qui agissent beaucoup plus qu'elles ne revendiquent, et tout ça sans jamais donner aucune leçon. Un petit peu, si je peux me permettre, Laurent Gamelon, comme votre grand-mère, rebelle de l'ombre, qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle, la postérité l'a un peu écartée, mais en revanche, les deux mains dans le cambouis, et tout ça dans une discrétion absolue. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est tout à fait exact.
On a vu une photo où elle était avec Trotsky
oui,
et Ho Chi Minh.
Oui, j'ai découvert une photo il y a quelques années de ma grand-mère paternelle, aux côtés de Trotsky et de Ho Chi Minh.
Et Jean-Luc Mélenchon.
À Moscou, en 1920, je ne sais pas très bien encore.
Il n'y a pas Jean-Vincent Placé sur la photo aussi.
À savoir ce qu'elle fait là-bas. J'invite d'ailleurs des historiens du PC
oui.
Ou des gens du PC
qui
pourraient m'aider à percer ce mystère. Je suis très friand de trouver des gens capables de m'aider à avancer sur cette histoire.
Écrivez-nous sur hashtag par Jupiter si vous trouvez un moyen de résoudre cette énigme.
En tout cas, merci d'y faire allusion.
Mais cette chronique vous donnera peut-être même des idées, car ce livre est écrit par les deux arrières petites filles de Gabrielle, qui se sont heurtées à un énorme défi littéraire qui était comment raconter une aïeule sans être trop dans le personnel, sans être trop dans l'impersonnel aussi. Parce qu'Anne et Claire Berest avaient un souci, c'est que personne ne leur avait jamais parlé de leur arrière-grand-mère. Enfant, elle ne savait même pas qui était Picabia. C'était le silence radio. Pourquoi ? Elle l'explique un peu à demi-mot, mais parce que visiblement, Gabrielle Picabia, mère quatre fois, s'est occupée assez peu de ses enfants pour faire naître des silences, des tristesses, des blocages, comme parfois se déclarent un peu des maladies. Anne et Claire Berest sont en quelque sorte enfants de ce silence, et avec ce livre, elle brise le silence. Et du coup, émerge une voix, celle de Gabrielle. C'était là aussi tout l'enjeu littéraire, c'était faire émerger une voix calme et colossal au milieu des hurlements d'excitation de l'époque. Parce qu'on a un peu de mal à l'imaginer aujourd'hui, mais le trio Picabia-Apollinaire-Duchamp, c'était les sales gosses comme nous, ici, dans cette émission, on en aurait rêvé. Ultra déconneurs, géniaux, ultra aussi dépressifs. Hein. Mais alors, bouillonnant, ils ont inventé le dada, ils ont inventé le cubisme, et cette folie créatrice s'est fracassée contre la guerre 14-18. Apollinaire, d'ailleurs, il laissera physiquement sa peau. Reste quand même, désormais, en toile de fond, cette silhouette inamovible de Gabriel Picabia qui domine le fracas, qui a quand même mis tranquillement le feu à notre histoire artistique et qui est quand même la preuve que l'intelligence est peut-être la zone la plus érogène du corps. Je vous redonne les références.
Ça reste à totalement démontrer, mais on va y travailler.
Gabriel de Anne-Claire Berest est paru chez Stock.
Merci beaucoup Clara Dupont-Monod, qu'on retrouve demain d'ailleurs avec nous. Ce troisième sujet avec vous, Laurent Gamelon, un café de Bordeaux chamboule le principe même d'acheter une consommation. Vous ne payez pas le café, mais le temps que vous passez dans l'établissement. 5€ de l'heure, 24 euros la journée, 240 euros par mois si vous voulez. Vous n'achetez pas un café, mais du temps passé au café. C'est simple, pour consommer, c'est open bar.
Je voudrais un melon au Porto. Après, je voudrais un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage.
À la place du programme,
monsieur. Non, en plus. Et puis, alors, je voudrais aussi un rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment?
Très bien, monsieur, oui.
Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein?
Bien, monsieur.
Merci. Si vous les perdez vite quand même, je suis assez pressé.
Coluche, bien sûr, dans l'aile ou la cuisse. Il y a déjà 8 cafés qui s'appellent des anti-cafés dans la France. C'est un système qui vient d'Europe de l'Est. Vous trouvez ça finalement plus logique ou curieux de payer le temps que vous passez au café que le café lui-même?
Je pense que c'est une très bonne idée. Je vais immédiatement m'entraîner à boire 7 whisky en moins de 20 secondes. Voilà, est-ce que c'est comme les premiers forfaits téléphones, on peut pas payer à la seconde.
Ouais.
C'est que vous dites 5€ l'heure.
Ouais, la première heure, c'est 5€, vous recevez un badge.
Mais si
et
vous
ensuite,
10 minutes.
C'est à la minute. Bah non, justement, vous payez 5€ aussi.
Alors ça, c'est pas intéressant du tout.
Alors l'idée est de trouver un lieu où on reste et où on prend éventuellement 2 cafés, 3 cafés.
On a le droit d'en dire du mal ou pas, Charline?
Mais bien sûr.
Non, parce que vraiment, techniquement, quand on regarde, il y a des tas de cafés. Et pourtant, on est sur Paris, donc c'est un peu plus cher que partout ailleurs en France. Il y a des tas de cafés où on peut rester 2 heures, parfois 2h30 juste pour bosser, en prenant un seul café. Donc ça revient.
Et ça fait même tout le charme des cafés parisiens. Quand on est étudiant, rappelez-vous, on économise pour avoir son café que par ailleurs on boit pas, et tous les potes passent et on reste 4 heures.
Ouais, c'est vrai. C'est un lieu où vous passez du temps, Laurent Gamelon, les cafés?
Pas du tout. Je suis pas café. J'y vais pour boire un café, justement, rester peu de temps. Ouais. Mais quand j'étais un jeune écolier, parce que j'ai jamais été étudiant, on allait au café et on pouvait même ne rien consommer dès lors qu'on jouait au flipper.
Oh là là. Oh là, donc, oui. Bah oui, il y avait des
soucis. Il y a plus de flipper.
Non, c'est les vieux rades qui faisaient ça.
Ouais.
Laurent Gamelon, revenons à votre corps de métier.
À nos moutons.
Ah oui, on a une proposition pour vous.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Et vous avez un rôle qui vous plaira, je pense, celui de Jacques Chirac. Parce que,
bon courage pour l'imitation.
Le Figaro s'est dit, a appris et nous a révélé qu'il y avait eu un dîner, les Macron, les Chirac, c'était en juillet. Que s'est-il dit? On n'en sait rien. Enfin, si, nous on sait, on était là.
Jacques Chirac, certainement pas grand-chose.
Ah ben, on va voir. On y va, Guillaume Meurice, c'est Emmanuel Macron. Brigitte, c'est Clara. Bernadette, c'est Charlie.
Oh, chic.
Bonjour, Madame Chirac.
Moi, j'ai voté Sarkozy.
Je sais. Je vous présente Brigitte.
Ah, ben vous tombez bien. Hein, je vais vous refiler quelques robes pour le protocole.
Non, c'est gentil, madame. Ça va aller.
Bonjour, Jacques.
Bernadette, c'est qui?
Ben, c'est le président.
Ben, je sais bien, Bernadette, que je suis le président, mais lui, c'est qui?
Ben, c'est le nouveau président.
Ah oui, il est plus nouveau que le président.
Oui, et à côté, c'est Madame Macron.
Elle est pas mal. Elle aurait 10 ans de moins, je la draguerais.
En tout cas, c'est très joli. Je vous ai ravissant.
Et en plus, on paye pas un centime. C'est l'État qui paye ma loge.
Mais vous n'aurez pas de problème avec la baisse des APL.
Et pour les petites retraites, vous comptez faire quelque chose?
Bon, on bouffe.
Ah, et tête de veau pour tout le monde et un cordon bleu pour le petit.
Ah, j'adore le cordon bleu.
Mais on n'est que 4.
Bah oui, Jacques.
Mais t'avais pas invité les Pompidou?
Ah non, Jacques, ça j'ai oublié.
De toute façon, il restera pas président longtemps.
Il parle de moi ?
Non, de Pompidou.
Ah, il a pas tort, alors.
En fait, nous sommes ici pour que vous nous donniez quelques conseils.
Mais c'est très facile, il faut être à la hauteur du poste.
Oh, c'est beau, Jacques.
Il faut taper un maximum dans la caisse.
Oh, mais Jacques !
Vous vous en foutez plein les fouilles, de l'argent public, des pots de vin, même l'argenterie de l'Elysée. Vous embarquez tout.
Ne l'écoutez pas, il délire.
Pas du tout, vous faites un braquage.
Et puis
vous dites que c'est la faute de Juppé.
Mais attendez, quelle image on donne aux Français, là ?
Mais tu t'inquiètes, tu passes après Hollande.
Oh non, Emmanuel tient à son image.
Mais c'est qui le président préféré des Français ?
C'est vrai.
Ça voudrait dire que...
Mais que les Français sont cons, hein, complètement.
J'avoue qu'on est assez bien placés pour le savoir.
Mais monsieur Chirac, on a un programme.
Oh, mais qu'ils sont mignons.
J'avoue que j'avais des idées.
Ah, hein. Vous me fatiguez, les jeunes.
J'avais un projet.
Oui. Tu sais où t'as à te le mettre, ton projet ?
J'avais mis plus de E
pour projet. Laurent Gamelon en Jacques Chirac, avant de redevenir pharmacien veuf dans Tant qu'il y a de l'amour, pièce de Bob Martet, mise en scène d'Anne Bourgeois. C'est avec Marianne Chazelle, Patrick Chenet et Valérie Bègue au théâtre de la Michaudière, dès ce soir et jusqu'à plus soif.
Hein, jusqu'au mois de janvier. Il faut dire quand même que c'est une pièce totalement folle. Hein. On n'est pas du tout dans le schéma du boulevard traditionnel. Ça raille le verre et ça délire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça finit un peu comme Elsa Poppin, pour ceux qui connaissent Elsa Poppin. C'est-à-dire que bon, on arrive à une sorte de paroxysme de folie.
La scène de fin est en
jeu. Eh bien, on n'en dit pas plus. Allez, au théâtre de la Michaudière, voir Laurent Gamelon. Merci Laurent Gamelon.
Merci de m'avoir invité.
Et voici le mot de la fin qu'on laisse à Laurent Wauquiez.
On ne peut pas anticiper ce qui n'est pas anticipable, mais on peut prévoir ce qui est prévisible.